Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour sa première émission du mois de mars. Et ce soir avec moi, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Rodan, comme d'habitude, derrière les boutons de la technique.
Bonsoir.
Et puis, il y a moi.
Et le moi. Ouais.
Donc, bon. Comme d'habitude, pas mal de sujets ce soir d'ici 20h, en direct ou en podcast si vous n'avez pas eu le temps de nous écouter tout de suite, en podcast sur le site de Principe Actif, principeactif.net, rubrique Amnesty International. Et donc, pas mal de sujets ce soir. On va vous parler d'actualité avec suite à ce qui s'est passé aux attentats, effectivement, à Trèbes, aux attentats terroristes. On va vous en dire quelques mots. Sabine va vous parler de plusieurs femmes courageuses qui font la une de l'actualité amnistienne en ce moment. Et puis on va vous parler aussi des projets de loi sur asile et immigration qui nous préoccupent beaucoup, comme vous le savez. On va vous parler par rapport à ça aussi d'actualité locale, puisqu'on a eu plusieurs rassemblements ces derniers temps sur le sujet. Et puis on va vous faire des appels à l'action, c'est Ronan qui va vous en parler. Quelques bonnes nouvelles. Et puis
des coups de gueule.
Et puis des coups de gueule, voilà. Et puis d'autres surprises, si je ne vous ai pas tout dit. Restez avec nous jusqu'à 20h. Donc vous n'êtes pas sans savoir, comme disait l'autre, qu'il y a eu effectivement un attentat terroriste là, il y a quelques jours, à Trèbes, et que quatre personnes innocentes sont tombées sous les coups d'un terroriste, une fois de plus. Bien évidemment, nous ne pouvons qu'apporter toutes nos condoléances aux familles qui sont concernées par ces attentats qui sont à la fois extrêmement lâches et particulièrement ignobles. Donc il n'y a évidemment aucune question qui se pose par rapport à ça. Moi, ça m'a simplement fait remettre en mémoire, puisque au mois d'octobre dernier, le 3 octobre dernier, pour être précis, 3 octobre 2017, le Parlement français a fait passer dans la loi certaines mesures de l'état d'urgence pour nous protéger contre les attentats terroristes. On vous en avait déjà parlé dans les émissions de la fin de l'année dernière, en disant qu'au niveau d'Amnesty, on était très très critique, pour ne pas dire plus, sur certains aspects que revêtait cette loi. Et là, si on fait la comparaison entre les différents points qui avaient été mis en avant dans cette loi votée et son impact en termes de dissuasion par rapport à ce qui vient de se passer au supermarché de Trèbes, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a aucun lien de causalité qui pouvait permettre d'anticiper ou de faire en sorte que cet attentat n'ait pas lieu. Alors, par exemple, dans cette loi, il était prévu d'interdire à des personnes de quitter le territoire de leur commune ou de leur département, des personnes soupçonnées. Bon, la personne qui a fait l'attentat, en fait, elle habitait juste à côté. Donc, c'était inapplicable. D'obliger des personnes à se présenter tous les jours au commissariat et la gendarmerie. On sait que ce monsieur était fiché S, suspect. Mais bien évidemment, le fait d'être suspecté n'oblige pas, bien heureusement, à pointer au commissariat et à la gendarmerie. Sinon, ce serait un délit d'opinion. D'obliger des personnes à remettre leurs identifiants électroniques, là non plus ça ne s'appliquait pas à lui. De fermer des lieux de culte, c'est toujours ce qui est prévu par la loi, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qui vient de se passer. D'instaurer des périmètres de protection où la liberté de circulation sera restreinte et les fouilles indiscriminées possibles. Alors, faire un périmètre de protection autour des magasins, là, faudra quand même, puisqu'il s'agissait d'un supermarché, faudra quand même qu'on m'explique comment ça peut être envisageable. de procéder à des contrôles d'identité renforcés dans des zones frontalières. On n'était pas du tout dans une zone frontalière, donc là aussi, ça n'a aucun effet dissuasif possible. Et d'ordonner des perquisitions, de saisir l'ensemble de données informatiques présentes sur ordre du préfet. Là non plus, ça ne pouvait servir à rien. Bref, si on liste ces différents points de la loi antiterroriste d'octobre dernier, eh bien son impact sur ce qui s'est passé à Trèbes est absolument nul. Donc effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on va lutter contre le terrorisme. Ça, on l'avait déjà dit, mais là, la preuve est de plus en plus évidente. Et ça m'a fait penser, puis j'en terminerai là, avec une autre actualité. Il y a des gens qui ont des militants de Greenpeace. Alors, vous allez me demander quel est le rapport entre les deux, vous allez comprendre. Des militants de Greenpeace qui ont, à l'automne dernier, qui sont rentrés, pacifiquement bien évidemment, sur une centrale nucléaire dans l'est de la France et qui ont tiré, entre guillemets, un feu d'artifice. C'était simplement pour montrer, de façon pacifique, que les centrales nucléaires pouvaient être, qu'on pouvait rentrer dedans. Et que ça pouvait être des cibles pour des gens qui veulent justement commettre des attentats terroristes. On en revient au premier aspect du sujet. Donc c'était pour montrer la façon dont ces centrales-là, effectivement, pouvaient être des cibles faciles d'accès. Et c'était pour alarmer par rapport à cette carence de la protection des civils. Bon, les militants de Greenpeace, petite parenthèse, sont passés en justice là au mois de février. Ils ont eu des amendes, dont pour deux ou trois d'entre eux, je ne sais plus, des peines de prison ferme. Pour l'instant, tout le monde, enfin Greenpeace fait appel de ces jugements. Mais enfin, bon, c'est particulièrement là aussi disproportionné, puisque leur action était certes illégale, mais parfaitement pacifique. Et donc, ça prouve bien que, bah si, quelqu'un qui a du même acabit que celui qui a fait l'attentat à Trèbes peut très bien, avec d'autres, faire des attentats terroristes dans les centrales nucléaires. Oui. C'est la réalité. Et il faut se poser la question de ce que ça représenterait dans ces cas-là. Et pour conclure sur la question, j'ai entendu ça ce matin à la radio, il y a une députée qui a, suite à ce qui s'est passé avec Greenpeace, l'intrusion dans cette centrale, qui a dit, mais il serait tout à fait envisageable que pour lutter contre ce genre de délit, puisqu'effectivement, entrer dans un lieu privé comme une centrale, c'est un délit, ce genre de délit soit sanctionné par des tirs à vue faits par la police, des tirs à balles réelles faits à vue. Donc ça veut dire que, eh bien, on trouve normal, enfin, quelqu'un qui est un député de la République trouve envisageable, par rapport à ce genre d'action, qui n'est fait que pour mettre le point sur des zones qui peuvent être dangereuses par rapport à notre sécurité et par faire remonter en fait les manques vis-à-vis de notre propre sécurité, considère normal qu'il est envisageable d'autoriser la police à tirer à vue. Voilà. Donc c'est complètement... on marche sur la tête de plus en plus, quoi, c'est clair.
Ils veulent faire un baltrap.
Oui, c'est exactement l'inverse. Alors elle a fait des choses, bon, je vais même pas trop vous les lire parce que c'est vraiment... Alors bien sûr, après elle a dit que non, ça ne concerne... On l'avait mal comprise. Dans ces cas-là, effectivement, on comprend toujours mal. Hein. Que non, on l'avait mal comprise, que ça ne visait pas les militants écologistes de Greenpeace, que ça visait d'éventuels réels terroristes. Comment elle ferait la différence, c'est complètement stupide. Enfin, etc., etc. C'était une suite de non-sens. Encore une fois, c'est extrêmement dangereux, ce genre de propos, parce que ça banalise. Alors, Greenpeace porte plainte. Hein. Porte plainte pour incitation à la violence. Et ce en quoi ils ont tout à fait raison. Et dans le petit communiqué sur l'état d'urgence et sur ce qui vient de se passer, j'ai noté deux ou trois petites phrases, effectivement, sur les communiqués faits par Greenpeace ou par Amnesty, où il est dit « ne pas répondre à l'horreur, qu'il ne faut pas répondre à l'horreur par la perte de nos valeurs collectives ». Ça, c'était par rapport à cet appel au meurtre de cette députée. « Et si on cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare ». Donc voilà. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue à penser, il faut qu'on continue à être très vigilant sur ce genre de choses, et qu'encore une fois, les gens qui nous représentent au Parlement ou dans d'autres structures arrêtent de dire ce genre d'inepties qui sont absolument dramatiques dans la tête de certaines personnes. Voilà. C'était pour mon petit coup de gueule, moi aussi, en guise d'introduction. Il y a Sabine, par contre, qui voulait, je crois, vous dire des choses positives.
Non. Dans le même ordre,
voilà.
Là,
vas-y, Sabine.
Il y a ce qui s'est passé à la fac, oui, à la fac de droit de Montpellier.
C'est vrai.
Je ne m'en trompe pas. Où des jeunes qui étaient là pour marquer l'anniversaire des,
de mai 68 à l'intérieur de la fac ont été agressés par des gens qu'on laissait, que le doyen laissait rentrer, des gens cagoulés qui les ont tabassés, mais vraiment, on a vu quelques extraits, il y a une jeune étudiante qui avait filmé. Donc voilà, 2018, fac de droit. Quand on voit que c'est dans la fac de droit que ça se passe, ça nous donne un petit aperçu de la démocratie, de ce qui est en train de se passer actuellement dans ce pays, où, voilà, ça laisse... ça énerve aussi. Hein.
Oui, bah effectivement. On se permet effectivement de taper à coups de barres de bois cloutées, si j'ai bien compris, enfin je ne sais plus quoi, effectivement, sur
enfin,
des gens.
Sur
des gens qui font une occupation pacifique.
Oui, mais le doyen, il a dit que c'était normal, le doyen, il a dit qu'il fallait bien laisser rentrer. Il fallait bien qu'il y ait des gens qui fassent sortir ceux qui empêchaient les autres d'étudier.
Ah, ben bien sûr. Alors, il semblerait, d'après certains étudiants, parce que les mecs, ils parlaient quand même, et puis bon, il y a la carrure, il y a la cagoule, certes, mais il y a aussi la carrure qui est entre ces gens-là, certains profs de droit. Alors là, c'est à vérifier, mais si c'est ça, franchement, j'espère qu'ils vont faire le ménage.
Mais bon. Numéro de la police.
on a une auditrice derrière nous, effectivement, qui demande le numéro de la police.
C'est quoi la police?
On va t'en parler tout à l'heure de la police, tu vois.
On va en parler, effectivement.
Donc voilà,
c'est quand même un dossier qui est paru.
C'est quand même un peu dommage, on est tombé bien bas, quoi. Et c'est dangereux parce que là, franchement, j'espère qu'ils vont réagir parce que dans une fac de droit, voire de tels actes.
Oui. Mais
en France, là, ça devient inquiétant.
Mais ce genre de dérive dont on parle, Sabine, ce que tu viens de nous parler, sur ce qui s'est passé à la fac de Montpellier, sur cette agression gratuite et particulièrement violente, ou sur cette députée qui appelle, qui dit que la police doit tirer à vue sur des gens qui veulent nous protéger, ça ne peut qu'inciter les gens à continuer à être actifs et à nous rejoindre, à militer avec nous, effectivement, par rapport à la défense des droits humains, parce qu'il s'agit bien de ça, effectivement, il s'agit de la liberté de chacun, et de la liberté de protester, de la liberté de s'exprimer, de la liberté de montrer là où sont les failles du système en place, et que, de toute façon, il faut effectivement continuer à être extrêmement vigilant, donc il faut surtout pas baisser la garde.
Mais c'est fort dans la symbolique, quand même, la fac de droit, là où on enseigne soi-disant les lois et le respect qui devrait aller avec,
oui.
Ça laisse son genre.
Bah oui,
et il y a beaucoup d'endroits comme ça en France qui sont des zones de non-droit. On va t'en causer encore tout à l'heure.
Ouais, je crois qu'on va s'énerver ce soir.
Il y a Carlis qui a pris un petit air comment dire... je cherche le mot, un petit air un peu, voilà, un petit peu moqueur pour, parce qu'elle se prépare.
Mutin, ça rime avec mutinerie.
Elle se prépare à des déclarations tout à l'heure qui vont effectivement, voilà. Bref, on vous dira pas tout. Donc Sabine, tu voulais aussi nous parler de femmes courageuses.
Oh, oui,
je pense que
là,
c'est important par rapport à ce qu'on vient de dire, de gens qui s'investissent aussi pour nous défendre.
C'était pour la journée des droits des femmes, donc avec un petit peu de retard. Donc je vais prendre deux cas, hein, parce qu'on ne peut pas les faire toutes, mais on pense bien à elles. Donc il y a Wu Rongrong. Qui vient de Chine et qui est connue pour, enfin, qui était en Chine et qui est connue pour être l'une des cinq féministes, un groupe de femmes arrêtées en 2015 pour avoir planifié une campagne visant à lutter contre le harcèlement sexuel. Leur arrestation à la veille de la Journée internationale des droits des femmes avait provoqué un tollé international auquel se sont jointes des personnalités comme Hillary Clinton. Si ces cinq féministes ont été relâchées, elles demeurent sous surveillance. Avant son arrestation, Wu Rongrong était l'une des dirigeantes de Women's Rights Action Group, dont les actions audacieuses et créatives ont attiré l'attention de la population sur l'inégalité de genre et le sexisme. Ces femmes se sont rasées la tête pour protester contre les conditions d'inscription à l'université, plus exigeantes pour les femmes que pour les hommes, et ont porté des robes de mariée maculées de taches d'encre rouge lors d'une manifestation pour protester contre les violences conjugales. Les femmes sont confrontées à de nombreux obstacles tout au long de leur vie, mais la plupart demeurent bien souvent invisibles, a déclaré Wu Rongrong. Par exemple, les victimes de harcèlement sexuel subissent une souffrance sans nom, mais ne bénéficient pas d'une protection juridique efficace. Si les victimes ont lieu d'être montrées du doigt, été encouragées à demander des réparations, cela contribuerait à faire reculer le harcèlement sexuel. Outre ces activités de sensibilisation, Wurong Rong est travailleuse sociale et conseillère enregistrée. Actuellement étudiante, elle prépare un master en droit international relatif aux droits humains. Elle a du boulot. Donc voilà, on va passer en Égypte avec Aza Soliman, qui combat contre la torture malgré les persécutions. Aza Soliman défend courageusement des victimes de torture, de détention arbitraire, de violences domestiques et de viols en Égypte. Elle a cofondé le Centre d'assistance juridique aux Égyptiennes, puis Layers for Justice and Peace, Layers, je ne sais pas, pour justice et la paix, afin d'offrir une aide juridique, un soutien et des cours d'alphabétisation à des femmes et à des filles vivant dans la pauvreté. En raison de son travail courageux et désintéressé, les autorités égyptiennes considèrent Aza Soliman comme une espionne et une menace pour la sécurité nationale. En décembre 2016, elle a été arrêtée et interrogée. Brièvement détenue, elle a été relâchée, mais doit désormais répondre à plusieurs accusations, notamment d'avoir reçu des fonds étrangers en vue de nuire à l'image de l'Égypte. Aza n'a pas le droit de sortir du territoire. Ses avoirs ont été gelés et elle pourrait être condamnée à une peine d'emprisonnement. Pourtant, cette femme incroyable refuse de baisser les bras. Signez la pétition Soutenez Aza Soliman, défenseuse des droits des femmes. Le combat pour améliorer le sort des femmes et le respect des droits humains est long et épuisant. Pourtant, je garde espoir, dit-elle. Les nombreux messages de soutien et d'amour que j'ai reçus me rappellent que je ne suis pas seule et que mon travail est apprécié et reconnu.
Qui nous ont vus récemment sur les stands d'Amnesty, là, autres au cadran la semaine dernière, on avait la pétition effectivement en soutien à Aza Soliman, donc oui. Vous avez pu la voir. Elle est toujours en ligne sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, donc n'hésitez pas à la faire signer. Et voilà. Donc, c'était deux cas de femmes effectivement courageuses, et on vous en donnera d'autres, parce qu'il y a une campagne qui va commencer pour défendre les gens qui s'investissent, pour défendre nos droits. Voilà.
Pour défendre les défenseurs.
Pour défendre les défenseurs. Un dernier petit mot avant la première pause musicale, ça concerne la campagne qui a lieu en ce moment, qui est une campagne d'urgence par rapport à la remise en cause du droit à l'avortement en Pologne. Je vous rappelle en quelques mots, le but de cette campagne. Le Parlement polonais projette de faire passer une nouvelle loi qui va restreindre, vous en avez déjà parlé aussi, qui va restreindre le droit à l'avortement en Pologne. Alors que la législation polonaise est déjà une des plus restrictives en Europe par rapport au droit à l'avortement. Donc il prévoit que ce droit soit supprimé en cas de malformation grave du fœtus. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose qui est complètement aberrant de laisser une grossesse mener à terme, sachant qu'effectivement, il y a des malformations graves
du fœtus, ou mortelles,
et que ça peut même remettre en cause effectivement la santé ou la survie de la mère qui porte le bébé. Donc ce droit-là, qui est un des trois qui existent, effectivement, puisqu'actuellement, l'avortement en Pologne n'est autorisé que... Alors donc, s'il y a danger pour la vie ou la santé des femmes, ce qui va être mis en cause dans des situations de malformation grave du fœtus ou lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste.
Il ne sera plus autorisé du tout.
Voilà. Donc il resterait en fait que la possibilité d'avorter en cas de viol ou d'inceste. Ce serait le seul cas qui resterait. Donc on se mobilise par rapport à cette loi qui considère comme une loi particulièrement inique. Encore une fois, le droit à l'avortement, c'est le droit pour les femmes à disposer de leur corps. C'est un droit fondamental. et qui est inscrite dans les textes internationaux, donc qui doit être respectée. Et la mobilisation continue. Alors la loi devait être votée là il y a quelques jours. En fait, ça a été reporté au 11 avril. Donc on continue la mobilisation. Et vous qui nous écoutez, bah, là aussi, vous pouvez aller signer la pétition qui est toujours bien évidemment en ligne sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Dans la rubrique pétition, vous allez trouver la pétition pour protester contre la remise en cause de la loi permettant l'avortement. Enfin, la loi déjà si restrictive, mais permettant un peu l'avortement en Pologne. Et encore une fois, si cette loi est votée, bah, ça veut dire que les femmes polonaises qui auront les moyens iront avorter en Allemagne à côté, comme c'était déjà le cas avant, et celles qui n'en ont pas les moyens, effectivement, et bah, subiront la loi de plein fouet. Donc voilà, donc on continue à se mobiliser, c'est extrêmement important, et ça continue, c'est aussi dans l'optique de la régression des droits qu'on continue à voir apparaître à droite et à gauche, mais qui ne fait que nous persuader de continuer à nous mobiliser. Je crois qu'on va écouter un premier morceau musical.
Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est toujours Amnesty International à Évreux. On vient d'écouter Camille, son dernier disque, un morceau qui s'appelle Les Loups. Et on n'a pas trop envie, nous, au niveau d'Amnesty, de continuer à ce que ce genre d'individu continue à prendre des décisions pour nous. Voilà. Donc, oui, on a envie un peu de les écarter des responsabilités.
Et ne pas confondre avec l'animal.
Ne pas confondre avec l'animal, on n'a rien contre loups. L'animal. Non, non, c'est l'animal.
Il y a une autre chanson qui était très jolie, qui s'appelait Les Loups sont entrés dans Paris.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Tout à fait la même chose.
Tout à fait. Voilà, donc on a quand même quelques bonnes nouvelles, on en a toujours des bonnes nouvelles. Donc c'est Rodan qui va vous en parler.
Alors là, les bonnes nouvelles, je pars sur un sujet que j'ai souvent pas parlé, c'est par rapport au delta du Niger. Donc par l'intermédiaire du réseau des décodeurs, une plateforme novatrice et participative dans le domaine de la recherche sur les droits humains, nous avons mobilisé des milliers de sympathisants et de militants pour analyser des données sur le déversement d'hydrocarbures dans le delta du Niger. Retour sur l'enquête. Les internautes ont étudié les informations sur le contenu des rapports que Shell et Eni publient à chaque fois que leur personnel va constater un déversement d'hydrocarbures. Ces renseignements ont ensuite été analysés par nos chercheurs et vérifiés par AQFAC, une entreprise d'expertise indépendante spécialisée dans les oléoducs. En examinant les éléments accessibles au public, nous avons constaté que Shell et Eni mettaient des semaines à réagir au signalement des déversements et publiaient des informations erronées sur la cause et la gravité de ces fuites, ce qui pouvait compromettre la possibilité d'une indemnisation pour la population. Shell et Eni affirment faire tout leur possible pour prévenir les déversements d'hydrocarbures, mais les recherches des décodeurs laissent à penser qu'il en est autrement. Ceux-ci ont découvert que les deux entreprises ignoraient souvent les signalements de fuites pendant de longs mois. Une fois, Eni a même mis plus d'un an à réagir. Le delta du Niger est l'un des endroits les plus pollués de la planète. Et le fait que les entreprises responsables fassent encore preuve d'une telle négligence dépasse l'entendement. Pour couronner le tout, Shell et Eni semblent publier des informations peu fiables sur la cause et l'ampleur des déversements. Cela fait trop longtemps que la population des États du Niger paie le prix de l'imprudence de Shell et d'Eni. Grâce aux décodeurs, la perspective d'amener ces entreprises à rendre des comptes se rapproche. Donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où on dénonce. Quoi.
Oui, ça fait des années qu'on lutte pour ces problèmes de pollution dans le détroit du Niger.
Mais surtout qu'il y a quelques
très très longtemps.
Il me semble que j'en ai parlé, je ne sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant, justement, que Shell, ils avaient eu gain de cause, justement.
Oui, parce qu'ils avaient été condamnés à payer des amendes.
Et en fin de compte, que Shell, c'était à Londres, et en fin de compte, c'était une filiale, et la filiale n'était pas.
Voilà. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'on continuera à réclamer de toute façon. On ne lâchera pas non plus.
Et c'est un sujet qui me tient à cœur.
Bien. On a prévu avec Claire-Lise de vous parler de la police française. Alors pourquoi vous parler de la police française ? Eh bien, dans ce qui se passe, on vous a parlé de cette loi sécurité là, du passage dans la réglementation française de mesures de l'état d'urgence et de certaines informations qui paraissent. Il y a effectivement certaines actions de la police qui de temps en temps ne paraissent pas très bien cadrées avec le respect des droits de tout le monde. Donc voilà. Encore une fois, il n'est pas question d'accuser la police en tant que police, puisque c'est normal que la police protège les citoyens, c'est même son rôle principal. Mais elle doit le faire avec le maximum d'éthique dans un état de droit. Et c'est là-dessus, effectivement, que la chronique, on vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France, on peut toujours s'abonner au mensuel d'Amnesty France, là aussi sur le site d'amnesty.fr, et que la chronique a publié un petit dossier sur ce dialogue de sourds, en gros, entre la police et l'opinion publique française.
Et c'est pas la première fois que la chronique est obligée de dénoncer ce qui se passe au niveau de la police française. Il me semble qu'il y a 2 ans, il y avait déjà un gros dossier qui avait été fait par Amnesty sur justement la police française et qui a été repéré quand même par soit... je ne vais pas trouver mes mots, forcément, soit la Cour européenne des droits de l'homme, soit l'ONU. Enfin, la police française a souvent été épinglée pour des écarts par rapport quand même au respect des droits humains.
Voilà. Et donc, je vais juste vous lire en introduction ce que dit Amnesty pour présenter le dossier. C'est que, donc, effectivement, la police a été épinglée par le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU en juillet dernier, pour la dernière fois, pour l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre responsables de violences. La France est aussi mal placée quant à la confiance que ses citoyens accordent à leur police. Défiance partagée par les gardiens de la paix qui, eux, se sentent mal aimés. 15 ans après le démantèlement de la police de proximité, alors que le président Emmanuel Macron promet une police de la sécurité du quotidien, au contour encore flou, la société civile s'est emparée du sujet. Match de foot entre des keufs civils, café-débat, travail de médiation, autant d'initiatives qui visent à retisser un lien entre police et administrés. Malgré le climat sécuritaire actuel, les forces de l'ordre ne doivent pas oublier qu'on les appelle aussi gardiens de la paix.
Il semble loin ce moment de fusion, voire d'effusion entre police et population, qui s'est manifesté en janvier 2015 après les attentats. Depuis, des accrochages entre forces de l'ordre et citoyens, en particulier dans les quartiers populaires, mais pas que, ont émaillé l'actualité. Mauvais traitement dans un commissariat, gestion musclée de mouvements sociaux, comportement violent à l'égard de migrants, les usages excessifs de la force, même limités, sont intolérables dans un état de droit.
Alors, un peu plus loin, effectivement, il y a Amnesty reprend aussi un dossier qui a été publié par la CAT, une association qu'on connaît bien, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, et qui, elle aussi, a fait un rapport sur les exactions de la police. Et dans ce rapport, il est dit « Tout recours à la force dépassant le seuil autorisé par la loi est susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant, prohibé par le droit international et le droit français, et ce même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. » Il doit alors être sanctionné comme tel. 2 conditions impératives président à sa mise en œuvre, nécessité et proportionnalité. Tout usage de la force qui ne serait pas nécessaire ou se révélerait disproportionné constituerait une violence policière illégale.
Ces derniers mois, les modalités d'intervention de la police lors d'événements de nature différente ont provoqué de vives polémiques. On se souvient notamment d'interventions brutales lors de manifestations contre la loi travail, de la mort douteuse d'Adama Traoré durant sa garde à vue, de l'affaire Théo
dans laquelle deux fonctionnaires de police sont soupçonnés d'avoir sodomisé le jeune homme avec une matraque. Ou encore du traitement déplorable infligé aux réfugiés de Calais lorsque des policiers les privent de couverture ou les empêchent de prendre des douches. Tout cela mis bout à bout donne à l'opinion le sentiment que les forces de l'ordre font un usage excessif de la force dans notre pays. La frontière entre la légitimité du recours à la force et l'illégalité de violences abusives est aussi ténue que fondamentale. Voilà. Et c'est après, c'était rappelé effectivement dans le texte que vous a lu Didier.
Voilà. Et plus loin, il est dit aussi, c'est un sociologue qui parle, qui s'appelle Cédric Moreau de Bellin, qui dit que la violence et son usage disproportionné n'est pas un problème central de l'institution policière. La corruption ou le détournement à des fins privées des moyens mis à disposition des policiers sont sanctionnés fortement et de manière récurrente par l'inspection générale de la police nationale. Ils sont pris bien plus au sérieux par l'institution que la violence. Ce qui veut dire en fait que les malversations internes au niveau de la police sont considérées par la hiérarchie comme beaucoup plus importantes que les dérives en termes de violence. Un peu plus loin, un autre chercheur qui s'appelle Sébastien Roche, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « De la police en démocratie », dit « La France est mal placée par rapport à d'autres pays européens en termes de satisfaction et de légitimité des forces de l'ordre. Depuis le démantèlement de la police de proximité, comme on disait, une expérience courte censée apaiser la relation entre police et population, ce n'est plus au cœur du dispositif. Nous sommes très loin du Danemark où la formation des policiers vise à la création de la cohésion dans la société et de la confiance. En France, policiers, formateurs et chercheurs s'accordent sur un constat. L'enseignement transmet un rapport de tension avec la population. On martèle aux recrues que force doit rester à la loi et qu'elles doivent assurer à tout prix le contrôle de la situation. L'articulation de leur rôle de gardien de la paix avec le respect nécessaire des libertés publiques est, semble-t-il, insuffisamment mis en valeur dans les formations initiales. Voilà. Bon, donc, il y a pas mal de cas qui sont cités comme ça. Et en conclusion de cette première partie de l'article, là, c'est Dominique Curis qui est chargé de plaidoyer pour Amnesty International dans le chapitre « Liberté publique » qui dit « Les violences policières semblent plus visibles ». Sans doute, en partie, parce que les incidents et les violences dans les manifestations ont touché une population différente, autrefois épargnée par ce type d'incident. La vigilance sur les dérapages éventuels des forces de l'ordre est d'autant plus cruciale que le contexte sécuritaire légitime une forme de violence policière. De fait, la loi sur la sécurité adoptée en octobre dernier, et dont je parlais au début de l'émission, affaiblit considérablement le contrôle judiciaire sur l'exécutif et par incidence sur les forces de l'ordre. Le risque est donc réel qu'elles deviennent des outils au service d'un État, non plus de droit, mais selon l'expression de la pénaliste Mireille Delmas-Dalmy, de surveillance. Voilà. Puis je crois qu'à la fin de l'article, tu avais noté, ouais. Claire-Lise, et aussi des remarques qui étaient très judicieuses. Je crois qu'ils sont aussi d'ailleurs de Dominique Curis.
Attends, j'arrive.
Tout à fait. J'arrive. Donc effectivement, où elle conclut l'article, et c'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Eh bien, les forces de l'ordre ont l'obligation de permettre l'exercice du droit à la liberté de réunion pacifique et de ne pas imposer de restrictions au-delà de ce qui est expressément permis par le droit international. Elles doivent prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité et les droits des participants ainsi que des passants. Cette responsabilité implique un devoir de transparence et de rendre compte, trop souvent négligé. Ainsi, le port visible du matricule par les forces de l'ordre, nécessaire à leur identification, reste une exception dans les situations de maintien de l'ordre. Défaillance qui pose la question de la volonté de transparence des forces de l'ordre. Leurs obligations et devoirs sont trop souvent présentés dans le discours public comme des contraintes, voire une entrave à contourner, plutôt qu'une nécessité essentielle à l'état de droit. L'évolution législative de ces deux dernières années tente en effet à renforcer les possibilités légales d'usage de la force sans pour autant prévoir les mécanismes de contrôle et de garantie des principes de nécessité et de proportionnalité. Alors que les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre font l'objet d'une attention légitime de l'opinion publique et des responsables gouvernementaux, l'exercice du droit de se rassembler, d'informer, d'être protégé de violences arbitraires est trop souvent objet de suspicion et de discrédit. Le soutien gouvernemental aux forces de police ne peut se faire au détriment d'un effort de transparence et de justice pour tous. Les autorités doivent notamment mettre en place un outil de collecte de données relatives au cas de recours à la force excessive, arbitraire ou non, nécessaire par des représentants de forces de l'ordre. Amnesty International continuera ses missions d'observation, engagées en juin 2016, des interactions entre les citoyens et les forces de l'ordre dans différents contextes. Elle rappellera également les droits et devoirs de chacun pour concilier protection de l'ordre public et droits et libertés de chacun.
Voilà, donc on vous renvoie pour l'intégralité du dossier donc à la chronique du mois de février dernier, la chronique d'Amnesty International du mois de février dernier. Encore une fois, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur la police en tant que telle.
Non, mais il y a des trucs rigolos, hein. Quand il y a les nouveaux policiers, là, les petits bleus, ils disent « on nous apprend à obéir, à appliquer sans réfléchir ».
Oui, oui,
bon,
tout à fait.
C'est succulent.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Donc encore une fois, il n'est pas question de jeter l'opprobre, et encore une fois, bien évidemment qu'il y a beaucoup de policiers qui font très très bien leur travail, mais, encore une fois, dans un état de droit, on se doit d'être vigilant par rapport à des instances comme la police, et qu'effectivement, on doit être on doit demander des comptes, effectivement, lorsqu'il y a des dérapages qui sont encore moins acceptables de la part d'institutions comme la police que dans d'autres institutions. Donc voilà, c'est le but, encore une fois, de ce genre de dossiers qui sont publiés par les uns et par les autres, que ce soit l'ICAT ou Amnesty. C'est pas la première fois, c'est sans doute pas la dernière, mais encore une fois, nous, on défend l'état de droit et la police qui a son rôle à jouer dans l'état de droit et pas autre chose. Voilà, je crois que Ronan voulait parler, nous emmener, on est resté beaucoup en France depuis le début de l'émission, mais je crois que tu voulais nous emmener un peu ailleurs, au Yémen.
Oui, je vais partir au Yémen. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette semaine, cela fera 3 ans que la population yéménite est plongée dans la souffrance, sous les bombardements dévastateurs et souvent aveugles menés contre son pays par la coalition militaire sous commandement saoudien. Les escadrilles de chasseurs, pour la plupart saoudiens, ont causé des ravages dans ce pays appauvri. Des milliers de frappes aériennes ayant subi entre autres des hôpitaux, des marchés, des maisons, des usines et des salles funéraires. Des milliers de civils ont été tués et des milliers d'autres grèves ont baissé. L'effondrement des infrastructures associées à un blocus partiel prive la majeure partie de la population d'eau potable et de soins médicaux appropriés, déclenchant la pire épidémie de choléra de l'histoire moderne. Malgré cela, les pays occidentaux, et en premier lieu les États-Unis et le Royaume-Uni, ont fourni à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite du matériel militaire sophistiqué pour des milliards d'euros, contribuant à une campagne militaire qui se caractérise par des violations répétées du droit international humanitaire, y compris par de possibles crimes de guerre. Toutefois, à l'occasion de ce sombre anniversaire pour le Yémen, tout espoir n'est pas perdu. À travers le monde, des critiques virulentes des militants, des journalistes et surtout de certains responsables politiques commencent à porter leurs fruits. Ces derniers mois, sous la pression croissante de l'opinion publique, de nombreux pays européens ont suspendu les transferts d'armes destinés à la coalition. Dans les pays qui maintiennent les exportations, les transferts font l'objet d'attention soutenue. Les actions sont menées, intentées en justice et les critiques des parlementaires et des citoyens s'amplifient. Donc il y a quelques exemples. Par exemple, en Grèce, une tempête de protestations a déferlé en décembre lorsqu'un accord concernant l'envoi de 300 000 obus de chars en Arabie Saoudite a été révélé. Sur fond de pression croissante de la société civile, emmenée par Amnesty International Grèce, une commission parlementaire a annulé cet accord. C'est quand même positif.
Ça veut bien dire que la mobilisation, effectivement, ça a des conséquences.
Donc on continue en Europe. En Finlande, des images apparues en janvier dévoilant que les Émirats Arabes Unis, membres de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, ont utilisé un véhicule blindé Patriot fabriqué en Finlande pour des opérations de combat au Yémen, ont suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique. La révélation selon laquelle la Finlande avait accordé une licence pour l'exportation de pièces détachées de Patriot a mené la plupart des candidats aux récentes élections finlandaises, y compris le président, à s'opposer au transfert d'armes vers les Émirats Arabes Unis. Et après, en Norvège, la Norvège a annoncé la suspension des exportations d'équipements militaires meurtriers vers les Émirats Arabes Unis. Elle avait déjà cessé d'approvisionner l'Arabie Saoudite, invoquant les risques d'utilisation abusive au Yémen. L'Autriche et Pays-Bas et la région flamande de la Belgique ont à plusieurs reprises refusé de délivrer des licences pour des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Et le scoop, c'est quoi le scoop? Le scoop, toutefois, fut la décision prise par la nouvelle coalition allemande de suspendre les futures licences pour les transferts d'armes à destination de pays directement impliqués dans le conflit au Yémen. Et là, justement, c'est récent, c'est le 26, je crois que c'est aujourd'hui.
Donc, on est le 27, c'était hier. Non.
Donc, il y a eu un petit sondage qui a été fait par une enquête d'opinion qui a été faite, je ne sais pas si vous connaissez, par YouGov, qui a été réalisée par SUMOF, qui est une ONG internationale qui agit contre un contre-pouvoir des grandes entreprises. Et ce sondage donc a été réalisé à l'occasion du 3e anniversaire de la campagne militaire, d'une coalition aux pays arabes au Yémen, a été faite auprès d'un échantillon de 1026 personnes en France, donc représentative de la position française. Donc le sondage révèle que 88% des Français estiment que la France doit arrêter les exportations d'armes aux pays qui risquent de les utiliser contre la population civile. 75% pensent que la France doit suspendre ses ventes d'armes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen. 74% jugent inacceptable que la France vende du matériel militaire à l'Arabie Saoudite. 71% pour les Émirats Arabes Unis, deux clients importants de l'industrie d'armement française qui sont aussi les pays les plus impliqués dans le conflit du Yémen. Et 69% des Français sont favorables à un renforcement du rôle du Parlement dans le contrôle des ventes d'armes. Et justement, en parlant du contrôle des ventes d'armes, il semble que la France, elle n'a pas signé le
TSR. Si, elle a signé le traité sur le commerce des armes, tout à fait. Mais maintenant, entre le signer et l'appliquer, c'est toujours la différence.
Donc on voit, il y a quand même une petite lueur, je veux dire, d'espoir, c'est que ça commence à bouger en Europe. Il y a certains pays qui commencent à bouger.
Ben, je sais que le rapport qu'a publié récemment Amnesty France, justement sur ces ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, qui a été dénoncé, moi j'ai vu une information, c'était sur France 2, au journal de France 2, ils en ont parlé, effectivement, en disant qu'il y avait protestation d'Amnesty contre cette vente d'armes qui pouvait être assimilée effectivement à une complicité pour crime de guerre, puisque ces armes sont utilisées pour bombarder des hôpitaux, des écoles, etc. etc., etc. Donc là aussi, il faut, au sens propre du terme, arrêter un peu le massacre et arrêter l'hypocrisie. Voilà, on va peut-être faire une deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux, parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée, pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivain, parolier, dessinateur, graffeur, musicien, poète, peintre et sculpteur, célébrité, anonyme, professionnel et amateur, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme, avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là ? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir. Si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir. Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie. 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 Je suis Charlie.
Bien, de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Grand Corps Malade, un morceau qui date de quelques années maintenant, mais bon, par rapport à ce qu'on a dit en début de l'émission sur les attentats à Trèbes, ça m'a fait rappeler d'autres attentats, donc c'était un morceau qui s'appelle Je suis Charlie. C'est pas la peine de vous en dire plus, je pense que c'était tout à fait éloquent en soi. Voilà. Donc on avait prévu dans cette dernière partie de l'émission.
Une bonne nouvelle, quand même, avant pour commencer,
oui.
Je pense.
Tout à fait, une petite bonne nouvelle. Et après, nous, on va parler de des problèmes des réfugiés et des migrants.
Donc la bonne nouvelle, c'est en Iran. Donc, grâce à la campagne que vous avez menée sans relâche, donc quand on dit vous avez mené, c'est nous, c'est tous les sympathisants. Un membre de la minorité kurde en Iran, arrêté à l'âge de 17 ans, n'est plus sous le coup de la peine de mort. Condamné pour inimitié à l'égard de Dieu, Saman avait été à plusieurs reprises sur le point d'être exécuté. Son avocat nous a confirmé qu'il avait été acquitté des charges qui pesaient sur lui et que sa peine avait été commuée en 5 années d'emprisonnement pour appartenance à un groupe formé dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale. Son avocat estime qu'en raison du temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux, Saman devrait bientôt être libre.
Voilà.
Condamné pour inimitié à l'égard de Dieu.
Oui. Mais c'est qu'il n'était pas sympathique avec Dieu, quoi.
Ouais.
Dans ses propos. Faut faire gaffe, ouais.
On arrête.
Ouais. Les propos vis-à-vis de Dieu sont répétés par d'autres. Bon, enfin, on va changer.
Je sais pas de qui vous parlez.
On va changer de sujet. Un gros point qu'on va vous faire sur le projet de loi asile et immigration. Et je pense que c'est peut-être Clairlys qui va commencer. Enfin, on n'a pas trop discuté entre nous, mais je pense qu'elle a quelques informations à vous dire sur ce qu'on fait localement par rapport à ce sujet.
Donc, c'est juste vous dire qu'au niveau local, il y a eu 2 manifestations qui se sont passées à une semaine d'intervalle. Et le 17 mars, je vous en avais parlé, le CEFED a fêté ses 20 ans à la maison de quartier de la Madeleine. Et donc, à cette occasion, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, des gens qui étaient à l'origine de la création du CEFED, donc le collectif étranger français pour l'égalité des droits. Bien sûr, c'est pour l'égalité des droits humains et des droits fondamentaux de toute personne. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui, à l'époque, étaient eux-mêmes des personnes en situation d'immigration et qui avaient eu un parcours difficile et qui avaient décidé de s'unir avec d'autres personnes pour créer le CEFED. Alors, il y a eu des témoignages. Il y a la radio Principe Actif qui a été très présente au cours des 20 ans du CEFED et il y a eu des tables rondes. Donc, à ces tables rondes, ont participé des gens qui étaient à l'origine de la création du CEFED, des gens qui venaient d'associations amies, dont la Ligue des droits de l'homme, dont Amnesty International, et Monsieur Didier Rio qui a causé dans le micro, et tout ça. Et donc, il y avait aussi beaucoup d'autres
intervenants. Dès qu'il y a un micro, Didier n'est pas loin.
Il y avait aussi...
Faut lui gérer. Je rétablis la vérité. Clairlys aussi a parlé dans le micro.
Oui. Et entre autres aussi, le CEFED travaille beaucoup avec des avocats d'Evreux, mais aussi des avocats de Rouen. Et notamment le cabinet Eden Avocat. Et Cécile Madeline, qui est avocate au barreau de Rouen, était venue et avait pris la parole aussi. Voilà. Et puis le 24 mars, et on y était aussi.
C'était samedi dernier, donc.
Samedi dernier, aussi à la maison de quartier de la Madeleine. Il y a eu l'Assemblée Générale du Réseau d'Éducation Sans Frontières, donc nos amis d'RESF, qui, eux, avaient choisi de faire un colloque. Et le colloque, donc, a eu lieu. On y est allé parce qu'ils avaient aussi invité des associations amies. Et dans les gens qui ont participé à ce colloque, donc il y avait Daniel Tullier-Jugan qui représentait RESF, mais il y a aussi Cécile Madeline qui a repris la parole, qui travaille aussi avec RESF, bien sûr, et un autre avocat du barreau d'Evreux qui est Maître David Boyle. Et donc, il y a eu des choses très, très intéressantes qui ont été dites aussi. Et il y a quand même on peut faire un rapprochement dans tout ce qu'on a pu voir sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation d'immigration, les personnes réfugiées, et quand elles se confrontent face à la préfecture de l'Eure, la préfecture d'Evreux, et ben elles sont quand même dans de graves difficultés. Et on a relevé des choses où on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, hein, mais qu'il y a des zones de non, il y a aussi des lieux qui sont censés représenter la République française, représenter la loi française, et ces lieux-là ne respectent pas la loi, et notamment la préfecture de l'Eure. Donc il y a certaines aberrations, par exemple le guichet régularisation, donc c'est le guichet où les personnes qui sont en situation irrégulière doivent se présenter, c'est une seule personne qui gère ce guichet, et ça a été relevé par au cours des deux manifestations. Une seule personne gère ce guichet. Parfois, il y a carrément des délits de faciès. Hein. Ben nous, vous non. Il y a des personnes qui sont autorisées à rentrer et à demander un formulaire pour pouvoir faire une demande de titre de séjour. Il y a d'autres personnes qui sont systématiquement refoulées. Donc après, elle les connaît. Et il y a des gens qui peuvent même pas... C'est ce qu'on appelle un refus de guichet. Ils peuvent même pas prendre un formulaire pour pouvoir déposer une demande. La moindre des choses, la loi prévoit, c'est qu'on puisse au moins formuler une demande. Le préfet, après, est libre de refuser ou pas. On peut faire appel. Mais quand on peut même pas déposer une demande, on peut même pas faire appel.
Surtout que maintenant, le délai est très, très, très raccourci.
Attends. C'est pas encore voté, ça.
Justement,
Laisse-moi finir. C'est un projet. Donc, il y a un refus de donner le formulaire. Après, il y a aussi des dossiers qui sont incomplets. Alors, si on suit le formulaire, on demande les photos, les 50 euros de timbres fiscaux, la photocopie du passeport, l'acte de naissance, enfin, plein de documents. Et suivant le titre de séjour que vous demandez, il y a des pièces qui sont demandées. Elles sont notifiées sur le formulaire. Mais non, à la préfecture de l'Eure, on va vous demander d'autres pièces qui n'existent pas. C'est-à-dire, on vous demande des pièces supplémentaires. On vous demande des choses qui, normalement, n'ont rien à voir avec ce type de séjour-là, mais il faut les apporter. Et il n'y en a jamais assez. Ils peuvent se représenter une fois, deux fois, trois fois. Des fois, il faut en donner plus. Et des fois, les pièces sont perdues. Donc, il faut redonner les pièces que vous avez déjà données. Voilà. Il y a une suspicion systématique aussi envers, notamment, on l'a déjà dénoncé aussi, les jeunes femmes d'origine africaine qui demande un titre de séjour mère d'enfant français. C'est-à-dire que ces bébés sont nés en France, souvent à Évreux, enfin dans le département. Ils ont un acte de naissance qui a été donné par la mairie, donc on figure la date de naissance, le nom de la maman et le nom du papa, c'est souvent de cet ordre-là, qui est de nationalité française. Et ben, de plein droit, normalement, la loi les autorise à demander un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Elles sont systématiquement suspectées de frauder. Donc, on les convoque, et on les convoque avec les papas, dans un bureau qui est le bureau des fraudes. Et puis, quand ça va plus loin, on les interroge et on va même faire des signalements auprès du procureur de la République. Et donc, on les empêche de pouvoir demander un titre de séjour. Enfin, on retarde de plusieurs mois la possibilité que ces femmes puissent être régularisées. En attendant, quand elles sont en situation irrégulière, parfois, elles sont à la rue avec des bébés, avec des enfants en bas âge, et c'est terrible. Ce qu'on a relevé aussi, et on vous en avait déjà parlé, c'était la suspicion systématique de fraude aussi envers certains Africains. Certains pays sont plus mal cotés que d'autres.
Comme la RDC, par exemple.
La RDC, mais encore pire, les gens qui viennent de Guinée ou de Gambie, systématiquement, d'ailleurs il y a une note qui provient de la préfecture de l'Eure, comme quoi il y aurait vraiment beaucoup de fraudes venant de Conakry, et que donc les actes de naissance, notamment ce qu'on appelle les jugements supplétifs pour les actes de naissance, seraient systématiquement des faux. Donc ces personnes font venir, et des fois ont du mal à faire venir un acte de naissance, et en fait ils peuvent pas déposer leur demande parce que leur acte de naissance est présumé faux systématiquement. Il y a les OQTF qui sont systématiquement aussi distribués pour les déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire avant qu'ils aient le temps de déposer une demande de titre de séjour, pouf, ils se prennent une obligation à quitter le territoire français.
Ça évite d'instruire les dossiers, quoi. Ça fait moins de travail pour l'administration.
Et puis, il y a aussi, effectivement, et ça a été beaucoup dénoncé par l'ERSF, c'est le traitement des jeunes mineurs isolés. Oui. Alors, les jeunes mineurs de moins de 15 ans, il n'y en a pas beaucoup. Ceux-là, en général, arrivent à être pris en charge par l'ASE, parce que c'est un devoir de l'État de prendre en charge les gens vulnérables et mineurs. Mais il y a tous ceux qui sont entre 16 et 18 ans, et ceux-là, systématiquement, sont aussi suspectés de mentir sur leur âge, sont refoulés, ils sont accueillis à l'ASE pendant 24 heures, 48 heures, on leur pose plein de questions, on se rend compte que les éducateurs de l'ASE ou les responsables de l'ASE mènent une enquête à charge contre les jeunes. Enquête qui est ensuite utilisée par la préfecture pour les rejeter. Donc ils sont considérés ni comme mineurs ni comme majeurs. Donc ils sont à la rue. Voilà. Et sur Évreux, il y en a vraiment beaucoup actuellement. Et RESF a beaucoup, 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 beaucoup de travail pour s'occuper de ces jeunes-là et de leur trouver, entre autres aussi, un hébergement. Dans l'hôtel du département, c'est pas mieux aussi, hein, on leur a déjà dit dehors à ces jeunes, alors que c'est là où il y a les services de l'ASE. On ne vous a pas demandé de venir ici, en France. Ils se sont entendus dire ça.
On n'aura pas demandé de venir ici.
Voilà. Mmh. Et puis, bah, y a encore aussi, on dénonce aussi les tests osseux qui sont pratiqués, qui sont d'un bon âge. Enfin bref, pour en venir à une conclusion, c'est qu'il y a des sans-papiers, mais qu'on a l'impression que c'est la préfecture qui devient une vraie fabrique de sans-papiers.
Oui, bah c'est, voilà. C'est clair. Et ça, ça va dans l'évolution de ce que vous disiez effectivement, Sabine, tout à l'heure. On est mobilisé. Enfin, juste pour compléter ce que tu viens de dire, il faut rappeler que la première réunion, c'est Amnesty qui l'a faite par un hasard de calendrier, le 17 février dernier au Cube, avec la journée sur les réfugiés et le bus d'Amnesty.
Welcome.
Voilà. Oui. Donc, effectivement, après, ont suivi deux autres, ce qui nous a amené, nous, juste en deux mots, parce que leur tourne, enfin là c'est bon, mais leur tourne effectivement vers la fin de l'émission, juste en deux mots pour nous lancer dans les états généraux des migrations au niveau local. C'est donc ce qu'on a commencé à faire. On s'est vu une première fois entre nous, on va se revoir là à la fin de la semaine, et il y a plusieurs pistes de travail qui ont été adoptées.
Nous, c'est les associations dont on vient de parler, justement.
RESF, principalement RESF, le CFED, la Ligue des droits de l'homme et Amnesty Évreux, voilà, au niveau des états généraux d'immigration. Et donc on va, entre guillemets, compiler, on va commencer à le faire, toutes ces exactions, toutes ces mauvaises pratiques de la préfecture d'Évreux, toutes ces procédures illégales, parce qu'il y a de choses illégales qui sont faites.
Illégales, mais qui semblent, justement, et pour rejoindre ce que disait Sabine, illégales, mais qui semblent être presque, comme un...
accepté.
Non, mais comme s'ils étaient en train de préparer à l'avance ce qui va être mis dans la nouvelle loi.
Dans le projet de loi. Il l'applique déjà pratiquement.
Voilà. Ouais. Et donc, nous, on va se charger, au niveau du collectif, de dénoncer tout ça dans les médias, de compiler ce genre d'informations et d'appeler les gens à se mobiliser, bien évidemment. Et sur ce mot d'ordre qui nous paraît très simple, mais très parlant, c'est que chaque personne a droit à un toit. Donc voilà, c'est un peu notre mot d'ordre. Donc on va vous tenir au courant dans les prochaines émissions, parce qu'il y aura sûrement plein d'initiatives par rapport à ce collectif qui vient de démarrer là. Et c'est Sabine, je crois, qui va vous dire quelques mots sur ce projet de loi que nous prépare le gouvernement actuel et qui est particulièrement critiquable, pour ne pas dire
projet
plus.
Projet de loi, peut-être pas, on le fera la prochaine fois. Mais allez signer, il y a une pétition. Non, on s'attaque contre le droit des réfugiés et des migrants. Vous allez la trouver sur le site Amnesty. Hein. Et effectivement, l'article 6 réduirait le délai pour faire appel à une décision de rejet de l'OFRA devant la Cour nationale du droit d'asile, en la rendant 4 fois plus court que le délai de droit commun qui risque de mettre en difficulté les demandeurs d'asile. Et de rendre très incertaine l'issue. Mais ça, c'est ce qui est recherché, effectivement, du moins dans le coin. L'article 8 permettrait de renvoyer certaines personnes avant qu'une décision finale ne soit rendue sur les risques de persécution qu'elles encourent dans leur pays. Cette prise de risque est humainement inacceptable et juridiquement contestable. L'article 16 pénaliserait encore plus le recours à la détention en augmentant la durée de détention des étrangers. Mais apparemment, ça pourrait aller jusqu'à 145 jours, si j'ai bien compris.
Moi, j'en voudrais parler de 135, enfin, on est plus à 10 jours près. Hein,
ouais, mais bon, c'est lamentable. Mmh. Voilà. Enfin, c'est vraiment, il faut aller signer parce que c'est jusqu'au 16 avril.
Oui, tout à fait.
Et avant qu'on se quitte aussi, quand même, soyez très, très vigilants. Parce qu'on est là aujourd'hui, on est le 27 mars, mais à la fin du mois, c'est le 30 et le 31, et c'est la fin de la trêve hivernale. C'est-à-dire qu'au 31 mars, les familles de personnes qui actuellement ont réussi à avoir un toit, soit en hôtel, soit à la Mala, ces lits vont être supprimés. C'est-à-dire que la période des grands froids est finie, et ce sont des dizaines de familles avec des enfants qui vont se retrouver à la rue. Donc soyez vigilants, soyez attentifs aussi, parce que ce soit l'association Un Toit Sous la Main, RESF, le CFED, ou même la Ligue des Droits de l'Homme et Amnesty, on est tous solidaires pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des solutions pour l'hébergement, le droit à l'hébergement des personnes en situation de précarité. Alors il y a les réfugiés, il y a les migrants, et puis il y a aussi les autres personnes en situation de précarité, et il n'est pas normal qu'il y ait des femmes et des enfants ou même des personnes âgées à la rue.
Bien sûr, d'où l'appel, d'où le mot d'ordre, effectivement, chacun un droit à un toit.
Oui.
Donc voilà, on vous en parlera dans les toutes prochaines émissions. D'ailleurs, la prochaine émission, ce sera le mardi 10 avril, 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif et les podcasts en ligne, bien sûr, sur le site à la page Amnesty. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne soirée. On va laisser l'antenne à Manu et au laboratoire qui est arrivé, qui est prêt à prendre la suite. À très bientôt, au 10 avril, pour la suite des informations d'Amnesty International.
Bonsoir. Bonsoir. Les violations. L'oublie les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.